protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Mon invitée aujourd'hui est Marivonne Acuria, qui a réagi sur quelques-unes de mes émissions. Bonjour Marivonne.
Bonjour Yolande.
Vous avez fait des commentaires, des critiques, des suggestions et je vous en remercie. Je vais bien sûr vous demander de partager vos ressentis, mais auparavant, on va se plier à la règle du jeu de se présenter. Alors d'abord, vous êtes d'une famille protestante, catholique, autre?
Alors, je suis d'origine catholique, baptisée, élevée dans la religion catholique par plusieurs écoles catholiques.
Catéchisme,
église, avec ma grand-mère. Puis, assez jeune, autour de 18 ans...
On va pas aller trop vite. École privée, donc.
Oui, école catholique, privée...
Formation
je suis allée dans une école qui s'appelait Doctrine chrétienne.
D'accord. Et pour faire... qu'est-ce que vous avez comme
Pour faire un BEP sanitaire et social à l'époque.
BEP sanitaire et social, donc dans une école privée. Alors donc, éducation catholique, pas de problème pendant cette éducation. Et ensuite, donc, vous parlez 18 ans.
Oui, à 18 ans, donc ma sœur... protestante m'a initiée dans la religion par des actes, distribution de colis alimentaires, ouverture sur le protestantisme.
Mais auparavant, donc vos 18 ans, vous n'avez jamais eu de contact avec le protestantisme?
Pas vraiment.
Il n'y avait pas de protestants dans votre entourage?
Non. Bon, pas vraiment.
Donc,
juste une de mes sœurs.
Une de vos sœurs, donc, qui devient protestante et qui vous entraîne?
Oui, à me montrer une voie beaucoup plus simple, plus rapprochée, sans passer par des intermédiaires, qui, pour moi, étaient... pas dans la vérité, pas dans le vrai, et donc j'ai trouvé que c'était plus direct.
D'accord. Mais auparavant, est-ce que vous définissiez comme une bonne catholique?
Quand j'étais très jeune, oui, parce que j'allais à l'église, hein, donc je faisais ce qu'on me disait de faire.
D'accord. Voilà. Mais voilà, c'est en fait par le contact avec une personne qui vous a montré autre chose, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que sans intermédiaire, sans passer par des hiérarchies que je trouvais inutiles.
D'accord. Et est-ce que vous avez assisté à des cérémonies dans le protestantisme, puisque vous alliez à la messe, vous me venez de dire avec votre grand-mère, si j'ai bien compris. Et donc, est-ce que dans le protestantisme, vous avez assisté à des cérémonies, des cultes, des choses comme ça?
Alors oui, un peu plus tard, vers 20 ans, 25 ans, je suis allée au temple, je me suis inscrite au temple de... à la communauté de Salon de Provence, où je fais partie, donc j'ai aidé, voilà, parce que quand on fait partie d'une communauté protestante, on essaye d'aider, et donc à l'époque j'ai pris l'entraide de l'Église réformée de Salon de Provence.
Alors on va y venir à ce que vous avez fait concrètement, mais d'abord, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre entourage? Comment a réagi votre entourage?
Alors, mon mari, à l'époque, n'avait pas vraiment d'idée là-dessus, mais il est... Alors, lui, il était catholique, mais il n'était pas spécialement convaincu par le protestantisme, mais il ne m'a pas empêché de poursuivre mon cheminement. ainsi qu'à mes enfants, parce que à l'époque j'avais deux enfants et mes enfants, je les ai mis à l'école biblique, au catéchisme, ils venaient avec moi au culte et ça se passait très bien. Et donc moi, j'étais présidente de cette association de distribution des colis alimentaires, d'aide pour payer des factures d'électricité aux plus nécessiteux.
Alors on va définir ce que c'est que l'entraide protestante
de l'Église réformée de Salon de Provence, qui n'est pas l'entraide protestante. J'étais pas présidente de l'Église de l'entraide de protestante. J'étais présidente de l'entraide de l'Église réformée de Salon de Provence.
Oui, mais c'est normal. Enfin, c'est, oui, ça me semble. Oui, oui, oui. Enfin bon. Mais d'abord, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie en dehors de l'entraide sur lequel on va revenir? Est-ce que ça a changé quelque chose sur le regard sur le monde immédiat?
Oui, au niveau déjà du culte, de la prière, du déroulement d'un culte, des prédications, des explications bibliques, des études bibliques. Moi, quand j'allais à un culte, quand j'écoutais une prédication, ça me touchait. J'en avais les poils qui s'hérissaient sur les bras, et donc je ressentais quelque chose que je n'ai jamais ressenti à l'Église, jamais.
À l'Église catholique.
À l'Église catholique, jamais.
D'accord. Donc, communauté culturelle, le culte, ça s'est bien passé dans la communauté. Vous avez été bien accueillis, bien intégrés.
Très bien, très bien, très bien. Aussi bien au catéchisme pour les enfants que dans le conseil presbytéral où je n'étais pas, mais j'assistais à des études bibliques, ça s'est toujours très très bien passé, oui.
D'accord. Et on vous demande de prendre donc l'entraide de l'Église réformée, donc de la Salon.
Oui, de Salon de Provence.
Et alors là, comment ça se passe?
Alors là, je suis très jeune à l'époque et je le reprenais derrière quelqu'un qui était très expérimenté, donc avec beaucoup de doutes, beaucoup d'a priori, puis finalement ça s'est très bien passé parce qu'il y avait un conseil d'administration qui était excellent, une trésorière, une vice-présidente, donc ils m'ont épaulé toujours lors des distributions de colis, lors des règlements de factures d'électricité pour les plus nécessiteux, lors on travaillait avec la banque alimentaire, donc on faisait des collectes de denrées alimentaires dans les supermarchés. Il fallait faire des plannings pour avoir des gens qui nous aident. Donc toutes ces petites choses-là, j'ai toujours été épaulée par un conseil d'administration qui était derrière moi.
Toute jeune, donc, vous avez pris des responsabilités assez importantes finalement.
Oui, que j'aurais pas prises si j'avais pas été épaulée par un solide conseil d'administration.
D'accord. Et puis, vous êtes toujours dans cette communauté?
Alors non, non, parce que y a des événements dans la vie qui font que j'ai divorcé. Donc là, ça a été quand même extrêmement compliqué parce que la paroisse n'a pas été forcément derrière moi. Pourquoi ça, il faudrait leur demander. Et par la suite, j'ai déménagé. Je me suis retrouvée à Berlétang où il n'y avait pas de communauté protestante. Alors, le conseil d'administration de l'Église de l'entraide a été bien avec moi, m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup soutenue, m'a même proposé d'avoir des colis alimentaires parce que quand on divorce, c'est pas évident financièrement, ce que j'ai refusé. Mais à partir de ce moment-là, j'ai dû donc m'assumer seule avec mes deux enfants. Et j'avoue que la paroisse,
j'ai pas été à la hauteur.
Peut-être que c'est moi qui m'en suis écartée aussi parce que c'était difficile d'assumer les deux. J'en suis partie à ce moment-là. Oui, j'en suis partie. Et après, Berlétang, il n'y a pas grand-chose au niveau protestant. Donc, ça a été, à partir de ce moment-là.
À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus en communauté Non, je ne suis plus en communauté, mais je suis toujours auprès de ma sœur qui vivait pas dans les Cévennes, mais qui avait une maison là-bas, et donc je continuais à aller au culte, alors moins souvent, mais j'ai toujours continué à rester dans la foi protestante.
Mais est-ce que c'est la même chose quand on ne fait plus partie d'une communauté, c'est-à-dire la lecture de la Bible, est-ce que c'est évident quand on est seul, comment peut-on vivre, est-ce qu'on vit d'ailleurs le protestantisme hors communauté? On peut toujours être protestant bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut vraiment vivre le protestantisme de façon satisfaisante?
Non, parce qu'en plus on peut même se poser des questions de savoir si on est vraiment protestant ou pas. Qu'est-ce qu'on est quand on n'est plus dans une communauté? Est-ce qu'on œuvre assez pour avoir une joie de vivre, de donner, de recevoir? Bon, moi je suis aide-soignante, j'ai toujours travaillé en service de soins à domicile auprès des personnes âgées, donc j'avais la possibilité de donner et aussi de recevoir, parce que c'est très enrichissant. Mais au niveau biblique, non, je suis incapable de prendre une Bible, de la lire et de la comprendre. Donc effectivement, si j'avais pas une famille avec un neveu, avec des personnes qui... avec un beau-frère aussi qui m'explique, j'avoue que c'est compliqué.
Ah, qu'est-ce que c'est que d'être protestant, puisque vous dites que vous ne savez pas si vous êtes toujours protestante. Qu'est-ce qui définit un protestant selon vous?
Bah, la foi en Dieu, croire qu'on n'est pas simplement là, par hasard, à errer, à pas savoir qu'est-ce qu'on fait sur Terre, est-ce que c'est bien ce qu'on fait, est-ce que c'est mal. Je pense que quand on est dans une communauté, quand on a un partage, ben c'est plus facile d'avoir une espérance sur ce qu'on fait et pourquoi on est là. Quand on est tout seul, ben c'est plus compliqué, puis quand on est tout seul, on a plus tendance à juger les autres par rapport à soi, alors on a l'impression que peut-être que les autres sont moins bien, que donc c'est plus difficile de vivre une religion seule qu'accompagnée.
Enfin, là, c'est le problème de la minorité. En fait, le protestantisme étant une religion très minoritaire en France, il y a des endroits où il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on ressent une grande solitude quand on est dans ces endroits-là, finalement.
Oui, et alors, on cherche quelqu'un comme soi, quelqu'un qui partage des valeurs pour l'autre, des valeurs plus de liberté, de choix, d'ouverture aux autres, pas d'enfermement.
Donc on reste protestant en mettant son protestantisme au service d'une ouverture vers le monde, c'est ça que...
Oui, et surtout pas un repli sur soi, ce qui est beaucoup le cas en ce moment. Donc essayez de trouver des gens autres que... de regarder comme on dit un peu son nombril et de s'apitoyer sur son sort en disant que ça pourrait être mieux tout le temps, voilà, donc essayer de trouver des gens qui pensent autrement, voilà.
Et autour de chez vous, c'est pas facile, il n'y a pas d'environnement du tout
Alors c'est un peu difficile parce que moi j'habite dans le Var et le Var c'est quand même un département où déjà il n'y a pas beaucoup de protestants.
Non,
il n'y a pas beaucoup de protestants. Il faut faire beaucoup de kilomètres si on veut aller dans un temple, hein, parce que ils sont dans les grandes villes. Donc c'est pas facile. Le Var, c'est un département où il y a beaucoup de retraités qui ont travaillé toute leur vie pour pouvoir se payer une maison au soleil. Donc, la religion, la foi, elle est peut-être un peu laissée de côté. Je sais pas, je peux pas juger, mais j'ai un peu l'impression que les gens qui habitent là, ils ont envie de soleil, de mer, ce qui est sûr
y a
de
pas
trouver
non
là-bas.
Plus, excusez-moi de vous interrompre, mais il n'y a pas non plus de ce qu'on appelle des œuvres, enfin, ou des actions, la CIMADE, donc pour les réfugiés, pour il n'y a pas de groupe dans lequel on peut faire ce que vous faisiez à l'entraide protestante.
Je ne sais pas.
Oui.
Peut-être, probablement, dans les villes, oui, probablement, mais à ma connaissance, non. Alors, peut-être que je ne me suis encore pas assez tournée vers ça pour aller le chercher, pour justement être plus en paix avec moi, parce que ça me dérange de ne pas pouvoir participer comme je le faisais effectivement sur Salon de Provence, oui.
D'accord. Et vous m'avez dit que vous étiez tombée sur mes émissions, donc je suppose que c'est votre sœur qui vous les a fait parvenir. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, donc vous m'avez fait quelques critiques, enfin assez peu d'ailleurs. Mais est-ce que vous pouvez dire justement ce que vous trouvez dans les émissions, pas trop de précisément. D'abord des critiques.
Des critiques, non. Alors c'est une nouvelle émission, donc au début, c'était juste par. Par curiosité, et puis et en fait j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant par le fait qu'elle interviewe des personnes qui sont extrêmement cultivées, qui ont fait des études, des facultés de théologie, qui lisent la Bible et qui la comprennent, qui l'interprètent, et ça, je ne l'ai trouvé que dans le protestantisme. Des gens qui savent de quoi ils parlent et qui le remettent surtout à aujourd'hui, qui la comprennent, qui comprennent ce que c'était à l'époque et qui nous servent maintenant. Parce que si ça nous sert pas maintenant, ça sert à rien. Donc moi, j'ai vraiment trouvé ça tout le temps. À chaque fois que j'écoute une des émissions, je prends pour moi et j'ai l'impression de sortir d'une prédication ou d'un culte. Donc j'en sors à chaque fois enrichi, systématiquement à chaque fois que les émissions sont variées. Les personnes sont pas les mêmes.
Il n'y a pas que des gens cultivés dans la religion.
Non, mais à chaque fois les personnes apportent quelque chose et on en tire. Enfin moi j'en tire un bénéfice. Et oui, non, c'est pas forcément.
Est-ce que le fait qu'il y ait des protestants comme vous, c'est-à-dire des gens qui se posent des questions, qui doutent, qui n'ont pas été élevés dans le protestantisme, mais qui sont protestants aussi bien que, comme je leur dis, c'est comme Luther n'était pas protestant d'origine, Calvin non plus, Zwingli était prêtre avant d'être protestant, forcément. Donc ils ont quand même des grands ancêtres d'une certaine façon. Est-ce que ça vous conforte, est-ce que ça vous rassure, puisque tout à l'heure vous m'aviez dit que vous n'étiez plus sûre d'être vraiment protestante. Est-ce que le fait d'entendre des autres qui sont un peu dans votre problématique, est-ce que ça vous sécurise d'une certaine façon? Est-ce que vous vous sentez plus protestante?
Oui, parce que tant que j'ai appartenu à la communauté de Salon, j'étais protestante parce que j'étais au cœur d'une communauté. Après, quand on est un peu un électron libre, on peut se poser des questions dans la mesure où moi, en plus, j'ai une origine catholique très très imprégnée, donc avec des sacrements, avec des et donc toutes ces choses là. presque me font être avoir un poids sur moi qui m'alourdissent plus que quand je suis dans une communauté protestante où là j'ai plus l'impression d'un être plus céleste, plus libre, plus libéré. Donc effectivement, quand j'entends des gens qui sont pas forcément protestants de souche, eh ben ça m'aide à être comme eux et à me dire protestante, alors que je ne suis pas baptisée, si on veut, protestant. Voilà.
D'abord, il n'y a pas de baptême protestant. Il y a un baptême chrétien. Alors, effectivement, on est baptisé soit à l'Église catholique, soit dans une église protestante, mais c'est le même baptême. Les catholiques reconnaissent le baptême protestant à condition qu'il soit administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, c'est un détail un peu technique, mais enfin, il y a un baptême. Et le protestantisme, il faut le savoir, qu'il va y avoir un sondage, où il y a eu un sondage, enfin bon, au mois de janvier, ça va dépendre quand passe cette émission, oui, là, ça va pas. Ça va être à peu près dans ces moments-là. Sur le protestantisme en France, les nouveaux protestants, mais qu'est-ce qu'ils sont ? Déjà, depuis un moment, ils sont souvent d'origine non protestante, au moins 25%. La plupart des pasteurs, depuis un certain temps, n'ont pas été baptisés protestants, si on peut dire, soit ils viennent du catholicisme, soit ils viennent d'ailleurs, depuis longtemps. Et puis maintenant, c'est l'éruption des églises protestantes de migrants, donc des gens qui n'ont pas, sont pas héritiers, n'ont pas d'ancêtres cévenols, huguenots, si l'on peut dire. Alors, voilà donc pour le protestantisme, ce que je peux dire. On va faire une pause musicale. Alors, vous nous avez choisi Many Rivers to Cross.
Oui.
Pourquoi ?
Rien que le titre, déjà, Tant de rivières traversées. Je trouve ça beau. En plus, c'est un noir qui chante. Parce que la condition humaine des noirs, on la connaît, hein, donc c'est pas facile. Et puis, la voix est extrêmement... perçante, donc j'aime bien cette musique.
Eh bien, nous allons écouter donc Many Rivers to Cross de Jimmy Cliff.
Time. There'll be times I find myself
Alors nous nous retrouvons avec Marie-Vonne. Vous avez parlé des sacrements. Alors les sacrements, il y en a deux dans le protestantisme qui ont été gardés en dépit des réserves des réformateurs, hein, qui n'étaient pas vraiment convaincus qu'il fallait les garder. Finalement, on a gardé le baptême et la scène, l'Eucharistie. Bon, avec des significations différentes, vous avez dû l'entendre si vous avez écouté Thème et Anathème, notamment avec André Gounel. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans Thème et Anathème, enfin dans les discussions théologiques? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou le plus intéressé?
Je dirais le retrait, enfin pas le retrait, mais ne pas s'embarrasser des bondieuseries, entre guillemets, des choses futiles, des intermédiaires, face à Dieu, face à sa responsabilité d'homme sur terre, et de pas passer par des intermédiaires qui sont plus ou moins honnêtes. Donc
mais ça, vous le saviez déjà. Qu'est-ce qui vous a étonné ou appris dans les thèmes évoqués? Par exemple, on a parlé donc du baptême, on a parlé du Christ, Christ et Jésus, si je me souviens bien, le sacré, le saint et le sacré. Est-ce que c'est des choses que vous connaissiez avant, la différence entre le saint, le sacré?
Non, je connaissais pas, et j'apprends beaucoup, hein, parce qu'effectivement, les choses qui sont sacrées, j'ai du mal, voilà, j'ai du mal à voir du sacré un peu partout, comme c'est un peu le cas en ce moment. Beaucoup de religions populaires qui s'attachent plus à du matériel qu'à du céleste. Donc ça je me régale quand j'écoute Thème et Anathème, parce que y a des explications là-dessus. Et
alors on remercie Michel Fréchet,
ah oui, tout à fait,
qui nous a fait une belle contribution donc sur le saint et le sacré, qui moi aussi d'ailleurs m'a appris beaucoup de choses. Alors on va voir maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le moment. Vos croyances. Alors bon, on est toujours libre de ne pas répondre, vous le savez, si on n'a pas envie ou si voilà. Donc les croyances. D'abord, est-ce que c'est facile de croire en Dieu? Est-ce que c'est évident de croire en Dieu? Est-ce que pour vous, on doit toujours croire en Dieu? Ou est-ce que, quel est le Dieu dans lequel on croit? Ou plutôt, quel est le Dieu dans lequel on ne croit pas? Voilà, ça fait un ensemble de questions, mais pour définir un peu les croyances.
Alors, moi, je crois en Dieu quand je suis dans la nature. Ça, c'est vraiment quand je regarde une plante, quand je regarde une fleur, quand je regarde une montagne, quand je regarde les étoiles, quand je regarde une vue sur une colline, sur une ville, je crois en quelque chose d'inhumain. Je crois que c'est là que j'ai le plus de foi, enfin de foi. Je sais pas si on peut appeler ça de la foi, mais quand je regarde un animal, une vie. Avec l'humain, j'ai un peu plus de mal.
Il y a des fois, oui.
Parce que déjà, on est plus nombreux. Ça, c'est donc il y a plus de chances que je rencontre des humains qui sont pas très
qui ne correspondent pas à l'idée d'une créature de Dieu.
Voilà.
Voilà. Faut pas regarder les informations, par exemple.
Voilà. Donc, oui. Ou alors les regarder. Moi, je les regarde le lendemain ou le surlendemain. J'ai du mal à regarder les informations quand ça m'arrive en pleine face. Je préfère regarder dehors, le ciel, la montagne, la nature. Voilà. C'est vrai que c'est, Bon, après, je vais pas polémiquer sur mon rapport avec l'humain, parce que l'humain, c'est comme tout, il y a des bons, il y a des pas bons. Après, il faut se protéger aussi des pas bons. C'est pas la peine d'avoir tendance à vouloir changer. On n'est pas Dieu, donc.
Et est-ce que votre image de Dieu, donc, vous le trouvez principalement dans la création, en fait, oui. dans quelque chose qui dépasse. Vous le voyez comment, Dieu ? Est-ce que ça a de l'importance pour vous de le voir ? Est-ce que ça a de l'importance pour vous de savoir qui est Dieu ? Ou est-ce qu'il n'y a pas besoin ? Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Non, mais oui, je comprends bien. Moi, je vois pas... Dieu, il est dans la création, mais c'est pas un homme avec une grande barbe et des habits blancs.
C'est pas un vieux blanc avec une grande barbe blanche.
C'est pas une représentation quelconque. C'est l'effet de la création. Pour moi, c'est ça, Dieu. Voilà. J'ai pas de représentation physique de Dieu.
Et donc Dieu, et c'est constant ou alors il y a des périodes de doute. Mais chez les protestants, le doute fait partie de la foi. Hein. Si on ne doute pas, le doute fait partie de la foi. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui est opposé à la foi, le doute.
Oui. Le doute, il est là tous les jours, finalement. Alors, pas pour moi, parce que moi, j'ai la chance d'être aimée, d'avoir une aisance financière, d'habiter dans un beau département. Mais le doute, il peut être sur des élections, sur des pays pauvres, sur des catastrophes, sur ce que je ne vis pas, moi. Alors, pourquoi moi je ne le vis pas? Voilà. Donc, oui, il peut être sur moi aussi, quand j'ai une dent qui me fait mal. mais voilà, c'est minime par rapport à d'autres situations. Donc oui, le doute, il peut être là.
Le message de Jésus, est-ce qu'il a de l'importance pour vous? Est-ce que Dieu s'incarne, enfin votre Dieu, le Dieu que vous trouvez, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes en accord avec le fait que ce soit incarné en Jésus, avec le message évangélique?
Oui. Jésus, Dieu s'est fait homme en Jésus, et donc Jésus jusqu'au bout a enduré une vie la fin surtout a été difficile, hein, donc pour moi oui, Jésus c'est l'incarnation de Dieu.
Et qu'est-ce qui vous apporte vous
une force déjà, parce que pour avoir enduré la souffrance jusqu'au bout, voilà. Moi, j'en connais pas beaucoup, et surtout pas moi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a cru jusqu'au bout.
Et alors, est-ce que vous en parlez autour de vous, puisque vous êtes seule, finalement, vous nous avez dit, à être protestante, est-ce que vous avez autour de vous, dans votre famille, en dehors du côté de votre famille qui est protestante, mais dans votre famille immédiate, est-ce que vous en parlez avec votre mari? Est-ce que lui, il est dans votre... Ou est-ce que vous êtes vraiment isolée dans vos convictions?
Mon mari se dit athée, parce que lui, il relie beaucoup de choses à la physique, voilà. Mais je suis pas sûre qu'il soit athée, parce que mon mari, c'est quelqu'un de bon, surtout avec les autres. C'est quelqu'un qui fera presque passer les autres avant lui, parce qu'il a ce besoin de servir tout le temps. Donc, moi, pour moi, c'est une représentation de Dieu, de, le fait de vouloir servir tout le temps. Après, il faut, faut lui demander à lui pourquoi.
Mais il faudra nous le présenter. S'il si veut venir à notre émission, pour comprendre, il sera bien, volontiers, on le recevra volontiers, oui.
Oui, oui.
Et donc, une conclusion maintenant, puisque on arrive à la fin de l'émission, on va faire de la politique fiction. Si vous étiez restée sans devenir protestante, est-ce que vous avez l'impression que votre vie aurait été différente? Est-ce que les valeurs dont vous avez parlé, d'écouter les autres, et que votre mari a particulièrement, est-ce que ça aurait suffi? Ou est-ce que, bon, je sais que c'est pas facile d'imaginer ce qu'on aurait fait si on avait pris un autre chemin. Mais disons, bon, on va formuler autrement. La place de Dieu dans votre vie, donc, vous la voyez vraiment liée au protestantisme, ou elle aurait pu être ailleurs, dans une forme de religion naturelle ou de...
Non. Non, 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 non. Si vous voulez entendre par là bouddhiste ou choses comme ça, non, parce que il y a un peu de sacré aussi autour et moi ça me plaît pas. Après, est-ce que je retournerai dans l'Église catholique? Non, parce que en dépit du fait que les monuments sont très jolis, les églises, les chapelles, je rentre le moins possible dedans. Donc maintenant, à part quand je vais mourir, je ne veux pas de prêtre à mon enterrement. Si
et pourquoi, quand vous allez mourir, vous avez besoin d'un prêtre?
Non, mais s'il y a une petite cérémonie religieuse, ça sera un pasteur ou une personne protestante, mais je ne pourrais pas retourner catholique parce que je n'y trouve pas de nourriture spirituelle.
Bon, bah, on va souhaiter que ça se produise le plus tard possible. Et puis, bonne chance, donc, dans la poursuite de votre cheminement protestant. Et merci d'être venu, d'avoir témoigné. Merci. Et on se retrouve dans une semaine. Merci à tous. N'oubliez pas, vous voyez, on peut discuter. Bon, bah, là, il y avait eu plusieurs échanges de mails. On n'est pas obligé de participer à une émission, mais on peut donner ses réactions à un protestant, peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. Je vous remercie, au revoir.
Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel. Surrender.